Les philosophes, donc, sont dogmatiques. C'est-à-dire, ils pensent à leur avis, la pensée humaine est capable de saisir la réalité dans son objectivité totale. Et donc c'est pour ça qu'ils pensent pouvoir décider et définir ce qu'est la volonté divine ou d'autres attributs. Et donc vont même venir en décider. Donc pour cela, on ne peut pas dire que Dieu a la volonté, puisque la volonté est telle et telle, ils savent quelle est sa volonté. Et donc attribuer cela à Dieu, ça ne va pas. Vous comprenez ? Donc tout cela, Kant, nous en avons parlé, l'a refuté. D'accord. La critique de la raison pure, et il a montré donc le problème des philosophes ou des savants, c'est qu'ils pensaient que la pensée est objective. Or, la pensée n'est que subjective, car c'est que moi je comprends, c'est ce que moi, là, c'est ce que me semble de la chose. C'est comme ça que j'envisage, et c'est un point de vue, c'est une façon même vraie, mais partielle. Okay? Je ne peux voir qu'un aspect, je ne peux pas cerner tout. Okay. Donc là, il y a ça c'est en fin de compte la réflexion la plus importante. Je crois qu'on ne va pas lire tous les philosophes, car ça ne vous intéresse pas tellement. Je voudrais seulement dire ceci, c'est que le Kuzari va, donc comme nous avons dit, va vouloir enseigner la foi. Quelle est la foi à l'humanité, les juifs, qui sont en galoute. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des plus graves problèmes au niveau de la foi. C'est que les gens pensent que la foi, c'est une opinion. C'est une pensée. C'est admettre l'idée que Dieu existe. Ça, c'est d'après eux la foi. Alors, ça n'a rien du tout à voir avec la foi. Ça, c'est une philosophie. C'est comme si je vais affirmer qu'il y a dans les cieux quelque chose, quelqu'un, un Dieu. C'est une bêtise, aucun sens. Quand nous parlons de la foi, je vais tout de suite vous dire le positif pour façon de faire différence, mais on va plus définir ça plus tard, car c'est le sujet du livre. C'est seulement pour me démarquer des philosophes. C'est que, donc, d'après nous, la foi, c'est pas qu'il y a Dieu, mais que moi, je suis divin. Ça, c'est la foi. La foi, c'est de reconnaître le divin dans toute chose. C'est clair ? Ok ? Ça, c'est la foi. Donc, c'est vivre le divin. Vivre le divin, ça, c'est la foi. Donc, quand je dirais en hébreu « émouna », c'est affirmer, car le verbe la amen, c'est affirmer, c'est comme la amet, c'est la même racine. Vous savez quel est le féminin de ben? En arabe. Okay. Seulement en phonétique hébraïque, le nom tombe, il reste bat. Au pluriel, ça revient à bat, note. Car la racine, c'est bâtir, livnot, binyan, bâtir le monde. Et par un enfant ou par un garçon ou par une fille. Le même amen, ajoute taf, amen. En arabe, il y a ça aussi. Il y a ça, amen. Non, bent, il savait.
Oui,
hein? Amen.
C'est amen.
Ah voilà. Okay. Donc c'est en arabe aussi. Et donc, en phonétique hébraïque, le nom tombe, il reste emet. Donc, le pluriel de Emet, c'est Emunot. Le nom revient puisque c'est le début de la syllabe. Au milieu de la syllabe, le nom tombe. Okay. Donc, quand nous parlons donc de Amen, donc c'est affirmer. C'est la même racine que dire vrai, affirmer. Comment puis-je affirmer une chose? Nous avons dit que l'intelligence ne peut pas affirmer une chose. Elle peut analyser, elle peut disséquer l'intelligence. L'intellect prend un sujet donné et l'étudie. mais affirmer la vérité en elle-même, donc objectivement, c'est pas possible. Alors comment disons-nous qu'il y a imuna? Donc premièrement, c'est pas intellectuel. Car intellectuel, nous avons dit que ce n'est que subjectif. Et donc ça, c'est l'erreur. Donc pour arriver à imuna, qui est l'objectif, on ne peut pas le faire par l'intellect. Alors comment, oui, le faire? Il y a une chose qui m'est évidente. Qui m'est évidente. C'est que je vis. Alors ça, c'est la imuna. C'est vivre le divin.
C'est le judaïsme qui dit ça, mais Abraham, il a découvert ça par l'intellect au départ.
Abraham, il a cherché Dieu, il est arrivé à des conclusions intellectuelles très proches de la vérité, mais le Midrash est bien clair en disant que c'était très proche, et c'est tout. C'est comme il allait et il disait, bon, alors c'est le Dieu, c'est la lune. Et puis elle est cachée par le nuage, donc alors dans le Dieu, c'est le nuage. Puis il dit, c'est d'ici par le soleil, donc Dieu, c'est le soleil, etc. Et ainsi, petit à petit, arriver à comprendre l'unité divine, par son entendement, jusqu'à quand Dieu est apparu à lui, s'est penché vers lui, et il lui a dit, quand Abraham est arrivé à la conclusion, il a dit, c'est pas possible qu'il y ait un monde sans guide. Dieu lui a apparu, lui a dit, c'est moi le guide. Ouais. Donc, en d'autres termes, c'est qu'il est impossible d'arriver à une évidence, à moins que la chose elle-même se révèle à nous. Ou d'autres façons que nous la vivions. C'est la même chose. Donc, la imuna sera vivre le divin par le simple fait que nous vivions. Et l'explication de la imuna devra se faire par la prophétie. C'est-à-dire que la chose qui va être expliquée doit s'expliquer elle-même. Moi, je ne peux pas parler d'elle. Je peux parler d'elle, mais ce n'est ça qu'un cas partiel. Elle devra se dévoiler et venir à moi, et cela, une chose faisable, c'est la prophétie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute la foi d'Israël est basée sur la prophétie. La culture indo-européenne n'est pas basée sur la prophétie. C'est une chose fondamentale. Au cas du livre hindou, ne parle de prophétie, en Europe non plus, au contraire. Pour eux, l'imagination ou l'inspiration, c'est tout au plus bon pour certains artistes, qui sont, disons, les garnitures de la société. Okay? Chose superficielle. Okay? Les arts. C'était pas autant ancien, c'était pas ainsi. Okay? Les mécènes donnaient aux artistes. Aujourd'hui, les mécènes donnent aux savants. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est central, c'est l'intellect. Oui, mais ça, c'est la culture arabe européenne.
Il y avait quand même une yeshiva déjà.
J'ai pas compris. Une yeshiva.
Par rapport à Abraham.
Ah, quel?
Il y avait la yeshiva de Ever.
Adam, ça commence par Adam.
D'accord, mais il y avait une yeshiva à l'époque d'Abraham. D'accord. Donc, comment c'est possible qu'il ait cherché à savoir qui était Dieu puisqu'ils étudiaient chez Ever? Pour qu'après, il soit resté 17 ans.
14 ans, okay.
Donc, qu'est-ce qu'il pouvait bien étudier pour que Abraham se soit posé la question, qu'est-ce qui pouvait être Dieu, qu'est-ce qui pouvait avoir construit le monde?
Et c'est-à-dire, en d'autres termes, quand nous parlons d'Avram qui a cherché Dieu, on parle d'Avram qui avait 3 ans. Donc, c'est pas encore quelqu'un qui étudie. C'est quelqu'un qui est à la recherche et qui va, par le moyen de sa grande âme, trouver les réponses seules. Okay? Comme tout prophète. Okay? En fin de compte, un prophète... La chose se présente à lui comme une évidence, ce qu'on appelle l'inspiration. Ce n'est pas un processus de pensée, tu arrives à la conclusion, et puis il a réfuté cela, et puis il a admis cela, et en fin de compte, voilà sa conclusion finale. Donc ça, c'est un acheminement de la pensée. Ici, c'est une inspiration, tout à coup, un éblouissement, tout à coup, les choses, voilà comme elles sont, et tout. Et les prophètes vont seuls contre tous, car leur évidence est sans faille. Il n'y a aucun doute, et ils sont même prêts à mourir pour leur vérité. Donc ça, c'est l'évidence. Abraham, c'est-à-dire en d'autres termes, on pourrait dire ainsi, c'est que Abraham avait la personnalité d'être prophète, et c'est pour ça que donc, son cheminement de pensée l'a amené à l'inspiration. En d'autres termes, on a deux autres cas de prophètes enfants. C'est Shmuel, Et à tel point que quand quand lui est apparu la prophétie, il ne savait pas que c'est Dieu qui parlait. Il a entendu une voix qui l'appelait, Shmuel, Shmuel. Alors il s'est levé, il est allé chez Élie. Tu m'as appelé? Alors il dit non. Alors il est allé de nouveau au lit. Et de nouveau, il a entendu des voix. Bon. Shmuel, c'est un homme normal, saint d'esprit, etc. Alors bon, on a des voix. Alors c'est Élie qui est à côté de lui, le grand prêtre qui l'appelle. Il va de nouveau chez Élie. Alors Élie, lui, qui était prophète, a compris. Sans doute s'étonnait, mais a compris. Et alors il a dit, écoute, si tu entends encore une fois, alors tu réponds de telle et telle façon. Et alors tu verras ce qui arrivera. Il n'a rien, il n'a pas dit sa prophétie. Alors, et c'est ce qui, donc tout ça est écrit dans le Tanakh. Puis le deuxième prophète enfant, c'est Yirmiyahou. Qui aussi a l'inspiration, et alors il dit, mais quand je suis un enfant, il a refusé. C'est lui, il savait tout de suite ce qui s'est passé, mais il a refusé. Et alors, l'inspiration, elle dit, non, ne dis pas que je suis un enfant. Car je t'ai créé ainsi déjà du ventre. Tu étais ainsi prédestiné à l'être. Bon, alors il accepte. Tout ça, c'est écrit au début d'Yirmiyahou. Il y a un magnifique livre de Néher, Jérémie. Alors là, il parle longuement. Certainement, il y a une bibliothèque, ça vaut la peine. Peut-être que prenez une heure de lire cela pour connaître. Donc c'est... D'après ce que nous savons, il y en a peut-être encore d'autres, nous savons qu'Avraham avait d'après le Midrash, et Yirmiyahou et Shmuel d'après les écrits. Donc des prophètes enfants. Alors ça expliquerait, ça répondrait à ta question. Qui n'était pas encore qu'un, qui étudiait. Okay. C'est un cheminement qui lui venait assez spontanément, sans préparation. Comme enfant. Donc ça seulement donc pour démarquer les philosophes. Je ne voudrais pas allonger trop ce sujet, car on va l'étudier.
Dans son livre, l'enregistreur Abraham Livni, en se basant sur le Rambam, à propos de la Névoa, hein, il dit, enfin, quand ça le fait, le Rambam dit que pour arriver à une darga de Névoa, seul un homme instruit peut arriver à une darga de Névoa, qui étudie, qui est
C'est pour ça que j'ai dit sur les trois cas.
Ça commence par le Midot, et puis ensuite, c'est Abiy Asseret.
Sauf ces trois cas. Non, il n'y a pas de doute que Yirmiyahou et Avraham Avinu et Shmuel sont devenus de plus en plus grands prophètes d'après leur élévation dans l'étude, et donc d'après la norme de nouveau. Mais il y a des cas où ça apparaît même sans préparation, bien que sans doute que ces enfants-là étaient des enfants tout à fait pas habituels, prodigues, etc. Bien, sans doute. Rivka aussi, elle apparaît qu'à 3 ans, elle était déjà une jeune fille et qui avait des forces. Qu'elle. Et pas seulement elle épuisait, elle allait courir en bas d'escalier à la source, remonter, abreuver tous les chameaux. C'est, donc il y avait aussi force physique. À part ça, jeune fille et beauté, et déjà tout à fait maître de sa destinée, elle décide. Donc, sans doute, ce sont des personnages que nous ne sommes pas du tout à même de comprendre. Donc ce n'est pas d'après les lois.
D'accord. Voilà. Même en tant qu'enfant, donc, survient une certaine darga de chorma.
Quelque chose de spécial. Je ne pourrais pas te répondre, quelque chose de spécial. Tu n'as pas d'après les lois. Mais ce que tu as dit, c'est exact. Bon. Voilà, je crois que c'est le principal. Je ne voudrais pas encore me présenter. En tout cas, c'est le principal. Okay. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été. Donc, c'est comme ça qu'il a réfuté. Il lui dit, voilà, moi j'ai eu des songes. On m'a dit, mon intention est bonne et mes actes sont mauvais. Or, d'une part, tu dis, les actes n'ont aucune importance, car Dieu ne veut rien. Donc tu ne me réponds pas. Deuxièmement, j'ai des songes, et pour moi, c'est l'expérience principale. Et tu dis aussi que vous avez des prophètes, que vous arrivez à être des prophètes, et pourtant, je ne vois pas chez vous de prophètes. Okay. Le seul que je connais qui s'est dit prophète, c'est Socrate.
C'est qui ?
Socrate. C'est le seul qui s'est dit prophète. Son fils, Platon, a écrit un livre qu'on appelle Phaidon. Et dans ce livre-là, Socrate donc, a des inspirations, plusieurs. C'est un homme sans doute qui croyait en Dieu. C'est sans doute pour cela qu'il a dû boire la ciguë. car d'après les Athéniens, il a perverti leurs enfants. Okay? Et bon, et dans son discours, ce serment, enfin, quand il a bu, avant de boire le poison, il a fait son grand serment en disant,
l'apologie.
Hein? L'apologie. Okay? En disant exactement, donc, citoyen d'Athènes, et donc, le Dieu que vous croyez, auquel vous croyez, moi, j'y crois pas. Et alors, il parle longuement de la prophétie. D'autres philosophes qui avaient prophétie et qui se targuent d'avoir et qui ont des livres, okay? Le Socrate, donc là, il y a tant d'enseignements qui lui ont été donnés par prophétie, aussi des façons de se connaître avec sa femme. Donc, comme nous avons dans nos livres.
Possible.
Hein?
C'est possible qu'il ait eu la prophétie, quoi.
Premièrement, sache que cette question ne m'intéresse pas. Il faut jamais poser une telle question. Ils disent qu'il y avait, il y a, c'est tout. Sans aucun intérêt. Tu ne peux pas... ça, c'est une des erreurs de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas créer une réalité. Tu comprends? Il y avait ou il n'y avait pas. Pose la question, est-ce qu'il y avait? Tu comprends? Tu sais ce que je dis?
Hein?
Est-ce qu'on peut nier Dieu? Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a Dieu? Hein? D'après ce que je viens de dire, je ne fais pas des devinettes, d'après ce que je viens de dire, l'intellect ne peut pas créer une chose. Que la chose soit ou ne soit pas ne dépend pas de mon entendement. Hein? Alors, pose une question. Est-ce que la chose était? C'est pas une bonne question.
Alors, quelle aurait été la bonne question?
Il n'y a pas de question à ce sujet-là. On peut pas. La bonne question, quelle était sa prophétie? Quel était son niveau? Comment ça lui est venu? Ça, c'est une question donc qui va analyser, qui va disséquer, qui va essayer de savoir le lieu, le temps, le pourquoi. Ça, sont les 10 bonnes questions qu'il y a pour façon de comprendre la réalité. Mais l'intellect ne pose pas la réalité. Il y a la chose et je veux la comprendre. Voilà donc le rôle de l'intellect au niveau 2.
Mais toutes ces questions, enfin, du moins tout ce genre de questions.
C'est basant sur la réalité donnée.
D'accord, tout ce genre de questions ne mettent-elles pas. Pardon. Au bout d'un moment, à poser sa question, mais dans le sens contraire, Lucille, est-ce qu'il y a vraiment eu...
Voilà, ça, c'est une mauvaise question.
Oui, non, mais toutes les questions
non.
Comme ça.
Non, ça, c'est une mauvaise question.
En essayant de situer vraiment s'il y a eu prophétie ou pas, à ce moment-là, on peut se demander, on peut arriver donc à une somme de réponses, demandant si vraiment c'était une prophétie, telle qu'on peut la comprendre, telle qu'on peut l'imaginer.
Non, encore une fois, il y a prophétie ou il n'y a pas. Alors, s'il y a, toutes mes questions vont être valables pour comprendre ce que c'est. S'il n'y a pas, bon, il n'y a pas de question, c'est fini.
On ne peut pas revenir sur l'arrière.
Mais on ne peut pas créer la réalité dans notre tête.
Si l'hypothèse est fausse.
L'hypothèse, pourquoi dire que c'est une hypothèse? Ce sont des monstres.
L'hypothèse, c'est bien de dire elle est vraie.
Encore une fois, c'est exactement ça le mensonge des philosophes ou des savants. Hypothèse. Ce mot-là, c'est le plus grand mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pose une thèse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme, et ils le disent, c'est ce qu'ils veulent dire, c'est je pose une réalité. Comment tu poses une réalité? Dis, j'invente une réalité. Faisons comme si, et voyons ce que ça va donner pour notre jeu d'esprit, d'accord.
C'est ça,
non, c'est pas ça du tout. Tu sais que deux droites, ça ne se rencontre jamais à l'infini? Deux parallèles? Deux parallèles ne se rencontrent jamais à l'infini? Euclide, tu as entendu cela?
Ne se rencontre
jamais.
Ne
se rencontre jamais, donc c'est l'infini. Deux, trois parallèles ne se rencontrent jamais. Qu'un triangle à 180, la somme des angles 180 degrés. Okay. Alors ce sont ce qu'on appelle des axiomes ou des hypothèses. C'est-à-dire des hypothèses qu'on admet. D'accord? Tout ça, c'est une bêtise. Toute cette mathématique n'a aucun sens. Pourquoi?
C'est relatif.
Pourquoi? Car il y a 100 ans à peu près, on a commencé à trouver les atomes. Puis est venu Einstein avec sa grande formule qui est la matière-énergie. Et donc toute matière est énergie. Or toute énergie, elle apparaît sous forme d'ondes. Toutes les ondes sont courbes. Ça n'existe pas des droites. C'est une invention d'Euclide. Il n'y a que tout le monde matériel n'est que des courbes et qui vraiment se rencontrent. Okay. Il n'y a pas de droite. Maintenant, l'homme C'est sa différence entre nature et l'homme. C'est un exemple que, valable très bien pour montrer que c'est, l'intelligence n'est pas objective. Et ça, ils ont pensé que oui. L'homme est ce qu'on appelle la droite. C'est-à-dire, n'est pas une forme courbe, donc fermée. C'est-à-dire que l'homme a libre arbitre. Il peut monter ou peut descendre. Alors que la nature est toute fermée, il n'y a pas de libre arbitre. Ce sont des formes, des cercles circulaires. Ou des sphères, ou tout ce que vous voulez, les ellipses, n'importe quelle. Ça, c'est une des bases de nos livres. C'est-à-dire, l'homme droit, il est dressé, et donc il est une droite, c'est comme ça forme son corps. Il est dans une nature ou bien à quatre pieds pour les animaux, ou bien courbe pour tous les réseaux de matière. De même, notre matière aussi, évidemment, c'est des ondes, des courbes. Maintenant, seul l'homme est capable de s'élever et d'élever le monde avec lui. Mais le monde, lui, est déterminé. Okay? En hébreu, le mot « siba », cause, okay? Et le mot « sivuv », ou « sovev », est le même terme, circulaire. Okay? Car la cause, automatiquement, en elle se trouve l'effet. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Si la cause est là, déjà l'effet se trouve inclus. Okay? Donc c'est siba. Alors que la droite, à cave, pas à sovev, à cave, lui, il est libre. En bien ou en mal. Donc vous voyez donc des notions de base. Maintenant, donc l'homme étant droit, il ne peut comprendre un monde que droit. Quand il est subjectif, quand il lui pense le monde. Alors bon, va venir Euclide, un grand savant, un grand esprit, et encore aujourd'hui on l'emploie, Ken, on fait des ponts, on fait des maisons sur sa mathématique, etc. Et il dit voilà, eh bien moi je comprends que le monde ce sont des droites. Et il va s'imaginer dans sa tête, dans sa grande tête. Je ne méprise pas cet homme. Il va définir un monde. Et ils vont remarquer en physique, donc en mathématiques appliquées, que la chose est inexacte. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on fait une maison ou un pont, ou les forces du génie, quand ils vont faire quelque chose, on va toujours prendre je ne sais pas comment on appelle ça en français, je vais le traduire librement, on prend une marge d'incertitude. Toujours, tout physicien, demandez à tout ingénieur de Bézant, etc., on prend une marge d'incertitude, on ajoute un peu, pourquoi? De façon, car nous savons, car ce n'est pas précis. Car dans la réalité, ce n'est pas précis. Okay. Eux disent, car le nombre 22 sur 7 est irrationnel. Le pi. La relation entre la droite, donc l'homme, et la circonférence, c'est pi. Entre le rayon, la relation entre le diamètre et la circonférence dans laquelle le diamètre est inscrit, c'est pi. C'est 22 sur 7. C'est 3,14 sans cesse. C'est irrationnel. Ben c'est ça le problème. C'est la relation entre la droite, donc entre l'invention d'Euclide, comme si c'était un élément, et le cercle inscrit. Voilà. Ken, donc c'est ce qu'on appelle en français faire la quadrature du cercle. Chose impossible. Ils sont arrivés eux-mêmes à voir que c'est impossible. Okay? Donc de rendre une courbe droite, c'est-à-dire toujours les segments que tu veux mettre dans, inscrits, les octogones que tu veux inscrire dans le cercle, tu vas essayer de les rendre plus court, plus jusqu'à de façon qu'elles deviennent vraiment le cercle, c'est impossible. Okay? Il restera toujours un angle. Bon, ça, ils ont marqué. Mais malgré tout, tous les mathématiques, encore vous aussi, vous avez certainement étudié les mathématiques d'Euclide, non? Le système de... des angles droits, et la somme des angles, c'est 180, et l'hypoténuse, c'est deux fois le carré, etc. Okay. Alors que, d'après le niveau nouvelle connaissance, est venu Berdichevsky, et lui, il a trouvé qu'il y a un autre pi, beaucoup plus proche de 3. Pas 3,14, beaucoup plus proche de 3. Puis est venu encore un troisième, un mathématicien, Je ne viens plus sur son nom. Sherman, je n'ai plus son nom. Et lui, il est un... Hein?
Sherman. Vous avez caché ça, hein?
Et encore plus proche, je crois. Bon, maintenant, vous trouvez dans le Tanakh, quand Shlomo a fait le bassin d'airain, ou de cuivre, Ken, Yam, chez Shlomo, donc le bassin de cuivre, là, les mesures sont données, que la circonférence était 30, soit pour un diamètre de 10. Donc, le pi, c'est 3. Maintenant, la Gemara Souka traite de cela. Et elle démontre que ce n'est pas exact. Par une expérience très simple avec une corde. Elle montre que ce n'est pas exact. Que la Torah donne un nombre général. Pas, elle ne prend pas à cœur de le dire précisément. Donc le problème reste ouvert. De toute façon, maintenant, d'après les connaissances actuelles, Ken, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on ne peut pas faire, disons, un calque, puis mettre ça sur le monde. Vous comprenez? Ça, c'est ce que Euclide fait. C'est ce que l'intellect des savants fait. Okay? Ils font un monde dans leur tête. Ils le représentent dans leur tête. Puis ils mettent ça sur le monde. Et tout ce qui est dans leur calque, ça tombe. Ça, c'est le monde. C'est eux qui font le monde. Donc, c'est pas une bonne question. On ne fait pas une réalité par la pensée. Et les savants le font. Et c'est très pratique. On l'emploie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des grandes têtes. Mais ce n'est pas la vérité.
Parce que je sais que, pourquoi j'ai posé cette question dans le troupé, parce que à une petite connaissance, il y a des critères d'après le judaïsme pour dire qui est Navi et qui ne l'est pas. On parlait d'Ali Sheker, on savait qui c'était, on savait les juger par rapport aux autres, etc. etc. Alors, est-ce que d'après les lois qui régissent...
Prophétie, est-ce qu'un goy peut être prophète?
Moi, je pense que oui, mais est-ce que lui, il était d'après ces lois-là? Ça, je veux dire.
On n'a pas assez de connaissances là-dessus.
Non. C'est ça que je voulais savoir.
Non. Il dit qu'il est un prophète. Il y a un livre qui raconte tout ce qu'il sait, ses inspirations. On les accepte.
Yitro l'était,
non? Yitro, sans doute. Quel? Quel? Donc, voyez, donc ça, c'est donc ce qu'il réfute. Il dit, je ne vois pas qu'il y a de prophètes chez vous. Peut-être un, deux. Et donc, sans doute que vous n'arrivez pas à cet état qui seulement donne ses évidences qui m'agite et qui je cherche la vérité, ça m'agite, etc. Sans cesse, j'ai ce songe-là, quelque chose qui me concerne, donc. Donc, tu ne me donnes pas de réponse ni au niveau du songe, ni au niveau du contenu du songe, qui dit que tes actes ne sont pas valables. Or, tu dis, il est important, les actes n'ont aucune importance. Fais ce que tu veux.
Est-ce que vous pouvez juste définir ce que veut dire le philosophe quand il parle de trois séries temporales qui
ont... Non, c'est ce que, justement, je ne voulais pas. C'est un cours de philosophie, tu comprends?
Non, parce que je veux savoir ce qu'il entend par le Sehel à Iyuli. Parce que même le Ramban, il parle dans la notion de Iyuli.
D'accord. C'est la réalité, la réalité abstraite qui n'a pas encore pris de forme. C'est-à-dire, on pourrait dire encore la pensée au niveau matrice. Alors que le Sehel à poème, c'est quand il est en acte et que déjà il a pris sa forme finale. Tout ça dans le monde des idées, qui est la philosophie de Platon. Okay. C'est-à-dire un peu mêler les deux philosophies, d'Aristote à Platon ensemble, dans ce concept, dans cette réponse très concrète que donne le philosophe au roi. Et donc, il va donner donc les principes mêmes, et donc là, il va pouvoir donc réfuter au niveau des principes. Donc c'est trop court pour dire que c'est un cours de philosophie. C'est vrai que ça n'a pas tellement d'intérêt pour nous. Maintenant, évidemment, les questions que le roi a posées contre le philosophe, il va nous les reposer aussi. Okay. Okay, donc, qu'est-ce que c'est la prophétie? Car lui, de prime abord, il n'y croit pas. Qu'est-ce que ça veut dire que l'infini parle à un homme? Un homme de chair et de sang. Okay. C'est une chose qui est invraisemblable. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des actes qu'il faut respecter? Donc, de toute façon, après, donc, il est allé chez le philosophe, il va chez le chrétien.
Chaque fois, c'est le chrétien.
Le chrétien.
Le chrétien.
Va chez le religieux, maintenant.
Le chrétien.
C'est le kouzari qui va?
Ken.
Le kouzari qui va. Le kouzari qui va. Kouzari qui cherche. Après, donc le kouzari dans son cœur, je vais demander aux chrétiens et aux islamiens, comment on dit islamiens ?
Musulmans.
Qui berat mishtatot a ele imtsa, car dans l'une de ces deux religions, sans aucun doute, se trouve l'acte valable. Asher le Yehudim, ce qu'il s'agit des juifs, Daily, ça me suffit, ce que je vois, comme ils sont en état, comme leur état est méprisable, qu'ils sont presque aucun, ils ont presque aucun nombre, ils sont très peu nombreux, et ils sont détestés par tous. Alors ça me suffit. Donc il n'y a pas de raison que je demande des gens pareils, que sans doute il y a des raisons qu'on les déteste, et sans doute, donc le. Ils n'ont rien à dire. Dans ce livre, à chaque fois, à partir du mot Yehudi, c'est avec mépris. Et le mot Israël, ça c'est le nom honorable. Et car Israël, c'est Israël du Sinaï. C'est intéressant que Nietzsche, il avait en haine les juifs, c'est-à-dire les chrétiens. Car pour lui, les chrétiens et les musulmans, c'est les juifs. Ceux qui lui respectaient beaucoup, c'est Israël. C'est-à-dire le peuple du Sinaï, le peuple de la Bible. Il dit il n'y a pas eu de plus grande honte et sauvagerie que quand on a relié ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la plus chose, la plus grossière que l'Europe a pu faire.
Par de la vieille mal, il dit ça, je crois, non ?
Hein ?
Dans le livre, par de la vieille mal.
Ken.
Il déteste les crédits.
Ken. Et donc, longuement, il parle grand respect d'Israël. Ken. Et Nietzsche était quelqu'un qui a beaucoup respecté le judaïsme. C'est comme ici aussi. Donc, les juifs, c'est-à-dire ceux qui sont la suite.